la fois dernière, on avait vu le point de vue du sacrifice d'Isaac. C'est sûrement au point de vue du gouvernement divin un moment très important. Et le dépassement de l'amour spirituel par rapport à la nature. Avec Abraham, on a vu l'importance de la génération, de la procréation. Et la procréation, c'est la nature. Et quand le choix de l'époux et de l'épouse, pour une raison, il n'y a pas la fécondité, il faut la sauvegarder. Donc, c'est la nature qui passe avant la personne. Mais Dieu rétablit son gouvernement le sacrifice dit d'Isaac. En réalité, le non-sacrifice qui fait que Dieu a voulu voir sonder. Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu sait sonder le cœur de l'homme indépendamment. Mais Dieu veut que nous comprenions le réalisme de l'amour. Et veut que le cœur d'Isaac, que le cœur d'Abraham, qui aime pourtant tant son Isaac, comprenne que Dieu demande une fidélité personnelle qui dépasse la procréation. Vous voyez, mettez en parallèle les deux, c'est ça que je veux dire. En parallèle, la situation d'Abraham par rapport à Ismaël, par rapport à son épouse légitime, et mettez après la situation d'Abraham face à Isaac, et Dieu lui demande de sacrifier son Isaac. Pourtant, il a eu tant de peine d'avoir Isaac. Hein. Alors, ça veut dire quelque chose quand même, ça. Dieu ne fait pas comme ça des choses aussi graves sans nous enseigner. Et l'Église maintient l'Ancien Testament. Hein. Ce sont des questions qui vous seront posées, ça. Pourquoi l'Église maintient l'Ancien Testament? Alors qu'on ne vit plus l'Ancien Testament. Et c'est vrai. Pourquoi? Ah, c'est parce que grâce à l'Ancien Testament, Dieu nous enseigne des points qui sont prévus pour le Nouveau Testament. On sait ça, Dieu a vu ça, la distinction de nature et la personne. Les philosophes ont mis très longtemps à la comprendre. Et au point de vue de la foi, et au point de vue théologique, on a des faits tangibles. On pourrait dire, mais alors, Dieu n'est pas constant dans son gouvernement. Il s'amuse. Pas du tout. Dieu, je veux dire, ne s'amuse jamais. Mais Dieu veut nous éduquer, nous faire comprendre ce dépassement de la personne à l'égard de la nature. Et pourtant, Dieu avait montré avant l'importance de la nature. Et il y a deux enseignements là, complémentaires, au point de vue nature et personne. Premier enseignement avec pour avoir Ismaël, avoir un enfant. La nature passe avant la personne. Second, la personne passe avant la nature. Là, il y a quand même quelque chose de très important, et c'est des situations extrêmes, hein, c'est pas des petites situations, c'est des situations extrêmes. Donc, qui sont là pour que nous réfléchissions. Troisième moment. Je ne peux pas faire autre chose que de regarder certains moments comme ça pour nous donner une. Pour que nous puissions théologiquement mieux comprendre le gouvernement du Père, surtout. La mort et la sépulture de sort. C'est aussi très important, ça. Chapitre 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Donc il l'a supportée, hein, longtemps. 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Abraham vint pour se lamenter sur Sarah et pour pleurer. C'est aussi très joli pour montrer la liturgie de la mort. Et on vient se lamenter et pour pleurer. Puis Abraham se leva et de devant son mort et parla au fils de Heth en ces termes. Je suis un résident et un hôte parmi vous. Donnez-moi la propriété d'un tombeau parmi vous pour ensevelir mon mort et l'ôter de devant vous, de devant moi. Ça, c'est très joli. Ensevelir. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu. » C'est beau d'appeler Abraham, prince de Dieu, au milieu de nous. Ensevelis ton mort dans le plus beau de nos tombeaux. Aucun de nous ne te le refusera, son tombeau. Prie en se vient ton mort. Donc c'est la générosité de ces gens. Hein. Et c'est important pour qu'on comprenne le geste d'Abraham, l'importance du geste d'Abraham. Parce qu'il pouvait tout simplement répondre à cette générosité. On lui a offert. Abraham se leva, se prosterna devant les gens du pays. Devant les fils de Heth, il leur parla en ces termes. Si vous voulez bien que j'ensevelisse mon mort et l'autre de devant moi, écoutez-moi, bien intervenez pour moi auprès de Hébron, fils de Soar, pour qu'il me donne sa grotte de Macpala, qui est au bout de son champ, qu'il me la donne, contre sa pleine valeur d'argent en propriété funéraire au milieu de vous. Voyez, la justice qui apparaît devant la gratuité. C'est nettement ça. Abraham veut un contrat de justice. Et on lui offre la gratuité, il la refuse. Or, Éphron était assis au milieu des fils de Heth. Éphron, le Hittite, répondit à Abraham de façon à être entendu des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, le champ, je te le donne, et la grotte qui s'y trouve, je te la donne. Sous les yeux des fils de mon peuple, je te la donne. Ensevelis ton mort. » On insiste, hein? Générosité. Abraham se prosterna devant lui, devant les gens du pays, et il parla ainsi à Éphron, de façon à être entendu des gens du pays. « Veuille seulement m'écouter, je donne l'argent du champ, accepte-le de moi, que j'y ensevelisse mon mort. » Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 sicles d'argent entre toi et moi, qu'est-ce que c'est ? Ton mort, ensevelis-le. » Abraham écouta Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, de façon à être entendu des fils de Heth, de façon à 400 sicles d'argent ayant cours chez le commerçant. On souligne ayant cours chez le commerçant. C'est tout à fait la justice. Hein. C'est, la justice est rigoureuse. Il ne faut pas l'oublier. La miséricorde, c'est moins précis. Ainsi, le champ de Éphron, 6 Macpella, en face de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouvent, ainsi que tous les arbres qui sont dans le champ, qui sont sur tout le pourtour, passèrent en propriété à Abraham sous les yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham ensevelit Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Macpella, qui est en face de Mamré, c'est-à-dire en Hébron, au pays de Canaan. Ainsi, le champ et la grotte qui s'y trouvent passèrent des fils de Heth à Abraham en propriété funéraire. Voyez le sens de la propriété. Et c'est voulu par Dieu. Abraham veut que ce pays soit le sien. Et pour qu'il soit le sien, il doit acheter avec son argent le champ et la grotte. Et qu'il ne veut pas qu'il soit donné gratuitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait, mais puisqu'il est donné gratuitement, c'est encore mieux. Non, Abraham ne veut pas, il veut que ce soit payé. Alors, est-ce que on passe, si vous voulez, devant tout simplement l'amitié à la justice ? assise à une objectivité que n'a pas l'amitié. Ce pays appartient à Abraham grâce à la mort de Sarah. Et qu'avant, Abraham était simplement reçu avec beaucoup de charité, si vous voulez, beaucoup de gratuitement, mais ce n'était pas son pays. Tandis que par le mort, ce pays devient son pays, la justice. Donc, on passe de la famille à un aspect politique. Et je crois qu'à ce point de vue-là, c'est très important. Et ça se fait par celle qui est morte. Et ça se fait d'une façon solennelle, que tout le monde le voit. Et nous mettons, nous, les rapports entre la justice et l'amitié, en faisant que la justice est ordonnée à l'amitié et que l'amitié est plus parfaite. Ça, c'est vrai pour une morale personnelle. Mais pour une morale politique, l'amitié, très bien, ça peut changer. Il faut la justice. Je crois que c'est le passage de la famille à un pays. À partir de ce moment-là, la terre de Canaan devient propriété d'Abraham. Donc, le pays. C'est étonnant, hein, mais je trouve ça très intéressant. C'est pas directeur, c'est quand même le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu veut que le peuple d'Israël soit un peuple qui ne soit pas simplement reçu en amitié, mais que ce soit son pays. Là, au point de vue du gouvernement divin, vis-à-vis du point de vue politique, un moment extrêmement intéressant et curieux. Évidemment, c'est très lié aux usages du temps, mais au-delà des usages du temps, il y a amitié et justice. Nature et personne, nous avons justice et amitié. L'amitié relève de la personne, la justice relève de la nature. Alors, c'est très curieux. Personnellement, il y a un dépassement de la pitié par rapport à la nature. Politiquement, il y a un passage de la nature par rapport à l'amitié. Et on progresse. Autrement dit, les rapports justice et miséricorde sont différents au niveau famille et au niveau politique. Vous retrouvez ça, même maintenant, dans la vie religieuse. Quand on commence une famille religieuse, tout est familial. Et à un moment donné, on passe à l'institution. C'est le point de vue politique. Et qu'est-ce qui arrive la plupart du temps? Dès que vous êtes au niveau institution, la justice reprend tous ses droits. Tandis que lorsqu'il s'agit uniquement de la famille, c'est les rapports de charité qui passent avant. Il y a là quelque chose d'intéressant et très curieux à voir. Et au point de vue philosophique, la famille est fondamentale. Le point de vue politique dépend de la famille et vient après. Au point de vue révélation, l'aspect politique s'impose au-delà de la famille. Politique divine, hein. Pas politique humaine. Politique divine. La philosophie, c'est la politique humaine. Et la révélation, c'est le gouvernement de Dieu. Et donc, au point de vue du gouvernement de Dieu, il y a quelque chose qui nous dépayse. Ça va te comprendre au terme pourquoi. Qu'est-ce que ça représente, ça? Si je me pose des problèmes dans une petite enquête, on fait comme ça. Il y a la naissance. Il y a eu comme Jacob faisait bouillir un bouillon. Ésaü, donc c'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Genèse 25, 19. Comme Jacob faisait bouillir, il y a tous les détails. On est au niveau famille. Ésaü rentra dans les champs, épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi avaler de ce roux, car je suis épuisé. » Voilà pourquoi on l'a appelé du nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi tout de suite ton droit d'aînesse. Jacob se sert d'une situation extrême. Le voir. Il se sert d'une situation extrême. Son frère a très faim. Il était à la chasse, il est très faim. Ésaü dit, Jacob dit, vends-moi tout de suite ton droit d'aînesse. Ésaü dit, voici que je vais mourir. Situation extrême. Que m'importe le droit d'aînesse ? Jacob dit, jure-le-moi tout de suite. Est-ce que c'est moral de se servir d'une situation extrême ? Il lui jure. Et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du bouillon de lentilles. Il mangea et but, se leva et partit. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, vous voyez, la morale est au bout. Hein. Et la morale est au-dessus de ce que je disais tout à l'heure. Il s'est servi d'une situation limite. Et la Bible montre, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, si vous regardez ça au point de vue moral, vous dites, justement, Jacob s'est servi d'une situation limite et Ésaü n'avait pas la liberté. Si vous regardez au niveau divin, le droit d'aînesse est quelque chose de divin. Et on n'a pas le droit de le vendre. Tu sais, j'en mourir. C'est le droit divin. J'en peux rien d'être second dans ma famille, d'être né après l'aîné. Et ils étaient du reste là, tous les deux, puisqu'ils étaient jumeaux. Ils s'étaient battus dans le sang éternel. Déjà, c'était prophétiquement quelque chose qui annonçait. Et il y avait un droit divin. Donc, on n'a pas le droit de vendre. Un droit divin. On meurt martyr pour respecter un droit divin. On le souligne. Hein. On souligne ça. Au gouvernement divin. La justice, elle joue des deux manières, au niveau humain et au niveau divin. Or, le droit d'aînesse est de droit divin. Donc, on n'a pas le droit de le vendre. Et si on le vend, on se met dans une situation qui n'est pas normale. Conséquence. chapitre 27, Jacob dérobe à Ésaü la bénédiction paternelle. Isaac était devenu vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point de ne plus voir. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Celui-ci lui dit « Me voici ». Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on va se mêler. Isaac n'est au courant de rien. Isaac, s'il est au courant des choses, le droit divin passe avant. C'est son aîné. Ésaü est son aîné. C'est Ésaü qui a le droit de recevoir la bénédiction. Ce n'est pas Jacob. Même si Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob, ça ne signifie rien. Pour Jacob qui regarde le droit divin, qui ne peut pas être atteint par un petit commerce. Donc, il y a le droit divin représenté par Jacob, et ce droit divin ne le touche pas. Et puis, il y a Jacob qui a usurpé le droit d'aînesse dans cette situation particulière. Alors, on va voir ce qui va se passer. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Celui-ci lui dit « Me voici ». Isaac dit « Me voici devenu vieux. Je ne sais pas le jour de ma mort. Et maintenant, prends ton attirail, ton carquois, ton arc. Sors dans la campagne et chasse pour moi du gibier. Puis, prépare-moi un régal comme je l'aime. » Très, très joli ça. Pour la bénédiction, il faut bien ça. Si les jours de fête, on fait un bon repas. C'est analogue à ça. C'est ancestral. Et ça repose sur notre père Jacob. Et chasse-moi du gibier. Sors dans la campagne et chasse-moi du gibier. Les gens qui aiment le gibier, on ne va pas le remplacer les jours de fête, il faut du gibier. Puis, prépare-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi que je mange pour que mon âme te bénisse avant que je meure. C'est pas mal, hein, comme liturgie. C'est au moins un certain réalisme. Et Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü. Son fils Ésaü, Et Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü, son fils. Ésaü alla dans la campagne, chassa du gibier pour son père. Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici que j'ai entendu ton père, et l'usurpation d'un secret, voici que j'ai entendu ton père parler à Ésaü, ton frère, en ces termes, apporte-moi du gibier, prépare-moi un régal, que je mange et que je te bénisse devant Yahvé avant ma mort. Et maintenant, mon fils, écoute bien ce que je vais te commander. Va au troupeau, prends Prends-moi de là deux beaux chevaux. J'en préparerai pour ton père un régal comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père et il mangera pour qu'elle te bénisse avant sa mort. Jacob dit à Rebecca, sa mère, mais Ésaü, mon frère, est un homme velu et moi, je n'ai pas de poils. La tavise du père et la mère. Peut-être mon père va-t-il me palper. Je passerai à ses yeux pour un railleur et je ferai venir sur moi une malédiction et non une bénédiction. C'est très étonnant, hein? L'apparence passe avant la réalité. Il faut sauver les apparences. Les apparences, c'est que si le père qui ne voit plus clair palpe, il verra tout de suite, est-ce que c'est mon fils qui est velu, poilu? Sa mère lui dit, ta malédiction, qu'elle soit sur moi, mon fils, écoute-moi. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevaux. Il alla les prendre et les apporta à sa mère et en prépara un régal comme l'aimait son père. Rebecca prit les habits d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison. Elle en revêtut Jacob, son fils cadet, avec les peaux des chevaux. Elle recouvrit ses mains et son cou, qui était sans poils. Puis elle mit dans la main de Jacob, son fils, le régal et le pain qu'elle avait préparé. Il alla de chez son père et dit, mon père, Isaac, dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob dit à son père, je suis Ésaü, ton premier né. J'ai fait comme tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier pour que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, comme tu as trouvé vite, mon fils, c'est, dit-il, que Yahvé ton Dieu m'aménager une rencontre. Isaac dit à Jacob, avance donc que je te palpe, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü. Jacob s'avance vers Isaac, son père, qui le palpa et dit, la voix et la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü. Il le bénit. Il dit, c'est bien toi, mon fils Ésaü, c'est moi, dit-il. Isaac dit, serre-moi que je mange du gibier Christ mon Fils, afin que mon âme te bénisse. Le lien entre l'âme et le corps en bonne forme devant un bon repas, l'âme est toute heureuse. Il y a beaucoup de vrai, ça. Les bonnes épouses, quand elles veulent obtenir quelque chose de leur mari, leur font un bon petit plat. Et elles savent qu'après, elles peuvent tout demander. Malheureusement, on ne peut pas faire ça pour ses supérieurs. C'est merveilleux, petit conseil. Afin que mon âme te bénisse, Jacob le servit et il mangea. Puis il lui apporta du vin et il but. Isaac, son père, lui dit : avance donc et embrasse-moi. Ça devient plus grave. Embrasse-moi, mon fils. Il s'avança et l'embrassa. Quand Isaac sentit l'odeur de ses habits, il le bénit et dit : oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qu'a béni avait. Que Dieu te donne avec la rosée du ciel et te gratère toi et te gratère moi. Abondance de froment et de vin. Que des peuples te servent, que des tribus se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, et que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Mon Dieu. Mon Dieu soit, qui te maudira, béni soit. Qui te bénira. Comme Isaac achevait de bénir Jacob, et que Jacob sortait tout juste de devant Isaac, son père, Ésaü, son frère, arriva de chasse. Lui aussi prépara un régal. Il apporta à son père. Il dit à son père que mon père se lève et qu'il mange du gibier de mon fils, pour que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit : qui es-tu ? Il dit : je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. Isaac fut pris de tremblement, d'un très grand tremblement. Il dit : qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu arrives et je l'ai béni. Et béni sera-t-il. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri, un grand cri, amer. Mais à l'extrême, il dit à son père : bénis-moi, moi aussi, mon père. Isaac dit : ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction. Et là, on est bien dans l'Ancien Testament. On ne pourrait plus jouer le même tour. Ce qui est très extraordinaire, c'est que Dieu donne raison à la ruse de Jacob. à la ruse de la mère. La façon dont Marie intervient dans le gouvernement divin. C'est une préfiguration lointaine. Il s'agit de comprendre, hein. Ne comprenez pas ça matériellement, alors ça deviendrait complètement absurde. Mais il y a une préfiguration. Ça, on voit bien. C'est quelque chose de très curieux. J'ai mangé de tout avant que tu n'arrives. Et j'ai béni. Béni sera-t-il. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri. Bénis-moi, moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu par ruse et a pris la bénédiction. Ésaü dit, est-ce que, parce qu'il a été appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté par deux fois, il avait pris mon droit d'aînesse, et voici que maintenant, il me prend même bénédiction. Puis il dit, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ? Isaac répondit, et dit Ésaü, voici que j'ai fait de lui ton maître et lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de froment et de vin nouveau. Pour toi, dès lors, que puis-je faire, mon fils ? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Isaac garda le silence. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, prit la parole et lui dit, voici, loin des grands territoires sera ton habitant. Et loin de la rosée qui descend du ciel, de ton glaive tu vivras et ton frère te servira. Et à force de vagabonder, tu arracheras son joug de dessous ton cou. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction dont il l'avait, dont l'avait béni son père. Ésaü dit en son cœur, proches sont les jours du deuil de mon père. Alors je tuerai Jacob, mon frère. En rapportant à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, elle envoya appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici que Ésaü, ton frère, veut se venger de toi en te tuant. Et maintenant, mon fils, écoute-moi bien. Debout, fuis chez Laban, mon frère, à Arad. Tu habiteras avec lui quelque temps. Jusqu'à ce que se détourne la fureur de ton frère, jusqu'à ce que se détourne de toi la colère de ton frère, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Je t'enverrai chercher de là-bas. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? C'est terrible. Cette histoire, hein, elle donne à penser, point de vue du gouvernement divin. On n'a pas le temps. Puisque maintenant, j'étais